Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une émission spéciale que je vous propose aujourd'hui et à double titre. D'abord parce qu'elle illustre la semaine de la langue française dans le monde avec deux auteurs francophones. Le Québécois Paul-Serge Forest, qui nous parlera tout à l'heure de son premier roman « Tout est Ori » aux éditions de l'Équateur. Mais pour commencer, l'écrivain ukrainien de langue russe Andrei Kourkov. Révélé en France il y a 25 ans par un roman satirique, « Le Pingouin », l'auteur très francophile, dont on a pu lire récemment « Les abeilles grises » aux éditions Liana Levy, étrangement prophétique sur cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, a accepté de témoigner sur notre antenne. Joint par téléphone, à l'ouest de Kiev où il s'est réfugié, il raconte la situation sur place et il répond à nos questions, Frédéric Lebel du magazine Accent d'Europe et moi-même. Bonjour Andrei Kourkov.
Bonjour.
Comment ça se passe autour de vous? Est-ce que vous êtes en sécurité?
Je pense que je suis en sécurité comme peut-être comme beaucoup de gens autour de moi qui habitent ici dans la même ville. Bien sûr, c'est plus dangereux maintenant dans l'ouest du pays parce que l'armée russe a commencé à bombarder la région de l'ouest du pays. Il y avait beaucoup de morts près de Lviv. Mais on reste en tout cas ici. Il y a des sirènes, il y a des arrestations des gens qui sont engagés par les Russes de prendre des photos des installations militaires des régions. Mais si on compare la situation ici avec la situation à Kharkiv, près de Kiev ou aussi à Rivne, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus agréable.
Et pour vous, rester en Ukraine, c'est une certaine forme de résistance?
C'est la résistance, mais c'est aussi c'est ma maison, c'est ma terre, c'est mon pays. Et je ne peux pas m'imaginer être un écrivain à l'étranger, en immigration, parce que l'immigration tue l'écriture. C'est les écrivains qui doivent partir, ils coupent les liens avec le pays où ils sont nés, où ils sont vécus. Et je ne veux pas suivre cette route. Pour moi, c'est très important de rester en Ukraine.
Les abeilles grises, qui est donc votre dernier roman, Andrei Kourkov, traduit aux éditions Liana Levy il y a peu, mais écrit il y a 5 ans et qui revient ou qui annonce un peu cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir une écriture prophétique ou en d'autres termes, est-ce qu'il faut écouter plus les écrivains que les hommes politiques pour s'alerter sur une situation?
On peut dire ça parce que j'ai déjà écrit un roman prophétique en 2004, Le dernier amour du président, où j'écris sur l'empoisonnement d'un candidat présidentiel 6 mois avant l'empoisonnement de Viktor Yushchenko. Mais je ne sais pas, je pense en fait les écrivains qui écrivent sur la vie politique, la vie sociale, ils peuvent analyser la situation et l'avenir parfois plus exactement que les politiciens.
Donc il faut lire de la littérature.
Bien sûr, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous éprouvez, vous, en tant qu'écrivain russophone, par rapport à cette langue, le russe, qui est maintenant celle de l'ennemi?
Oui, la russe d'Ukraine, c'est un peu différent. En fait, c'est une langue influencée par la langue ukrainienne et par les dialectes différents de la langue ukrainienne. Et pour moi, les russophones ukrainiens, ils ne sont pas représentants de Moscou, mais Poutine, bien sûr, pense autrement. Il pense que la Russie finit où il n'y a pas de russophones. Mais les russophones, ici, c'est les premières victimes des civils de cette guerre. Parce que la ville Kharkiv, qui est presque détruite, c'est la ville 95% russophone. Mariupol est presque 100% russophone. Les autres villes dans l'Est et dans le Sud, c'est plutôt les régions et les villes russophones. Et c'est là où il y a plusieurs des victimes dans la population civile.
Mais est-ce que vous imaginez à plus ou moins long terme, Andrei Kourkov, vous qui écrivez en russe et qui êtes néanmoins fondamentalement ukrainien, changer de langue d'écriture?
Peut-être non, mais dans les moments comme ça, je ne me sens pas très agréable, bien sûr, quand je parle russe dans la rue, parce que c'est la langue d'ennemi maintenant pour l'Ukraine. Et c'est un drame, pas seulement pour les russophones, mais aussi pour la langue russe, parce qu'aujourd'hui, en Ukraine, personne ne s'intéresse pas dans la culture russe. C'est maintenant, c'est pas interdit, mais c'est ignoré. Ça n'existe plus pour l'Ukraine. Ni cinéma russe, ni musique russe, ni littérature russe des Russies.
Vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez pas quitter l'Ukraine, André Kourkov. De quoi est-ce que vous avez besoin? En quoi est-ce que nous, on peut vous aider?
J'ai besoin de rien personnellement. Mais le pays a besoin d'aide, naturellement. Pour accepter les réfugiés, pour les aider, pour accommoder les femmes avec des enfants. Mais aussi, bien sûr, l'Ukraine a besoin d'ammunition, des armes, des aides financières, peut-être aussi des nourritures. En fait, on manque de nourriture pour les animaux maintenant. Il y a des queues plus longues pour acheter la nourriture pour les chats et les chiens que pour les gens. C'est très spécifique et très, très ukrainien parce qu'ici, on adore les pets, les animaux. Et une autre chose, je voudrais demander que les Français lisent plus de livres sur l'Ukraine, sur l'histoire d'Ukraine, sur livres par les auteurs ukrainiens pour comprendre mieux, pas seulement le pays, mais comprendre la différence entre les Russes et les Ukrainiennes et comprendre peut-être aussi les raisons pour cette agression russe contre l'Ukraine.
Alors justement, vous êtes écrivain, André Kourkov. Est-ce que aujourd'hui vous prenez des notes dans la perspective de documenter cette guerre ou pas, puisque vous êtes romancier normalement?
En fait, j'ai arrêté écrire mon roman que j'ai commencé à écrire il y a quelques semaines avant la guerre. Et maintenant, j'écris des notes, j'écris des textes pour la presse, pour les journaux internationaux étrangers, et je vais les assembler et peut-être je vais faire un livre avec tous mes textes et avec des notes du journal que je tiens toujours.
Et vous êtes inquiet?
Je suis inquiet, j'espère que je peux revenir, mais je suis inquiet, je suis loin de Kiev maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe avec notre appartement, avec ma bibliothèque, avec ma collection de whisky et des autres collections de vinyles, de musique, de gramophones. Mais toutes les choses matérielles ne sont pas très importantes. En fait, je m'inquiète sur le destin de Kiev, sur l'architecture, sur Sainte-Sophie, sur les églises qui sont les plus anciennes dans cette région. Kiev était toujours ma source d'inspiration et va rester.
Merci beaucoup, André Kourkov.
Salutations à tous à Paris.
Merci, on pense à vous.
Et vous pourrez entendre l'intégralité de cet entretien avec André Kourkov lundi prochain à 20h10 heure de Paris dans le magazine Accent d'Europe, présenté par Frédéric Lebel. Et maintenant, nous allons au Québec avec l'écrivain Paul-Serge Forest qui nous lit le tout début de son roman « Tout est Ori ».
Laurie le Large réagit. C'était entre la Pentecôte et la Trinité, entre la rivière Pentecôte et la rivière de la Trinité. Chaque année, quelquefois pendant la semaine qu'elle durait, Rogatien le Large reprenait conscience de cette coïncidence spatio-temporelle. S'en étonnait assez pour que ça le fasse sourire tout seul et la gardait pour lui. Les deux fêtes ne sont pas très loin l'une de l'autre dans le calendrier liturgique, comme les deux rivières sur la route 138. Les noms des choses, en était-il venu à se dire, sont comme de vieilles blagues semées par nos ancêtres pour nous inviter à la connivence. On peut les piger ou non. Si Rogatien, avant de crever, avait laissé un peu vieillir sa petite-fille Laurie, il aurait pu lui parler des fêtes religieuses et des rivières. Il aurait pu lui dire qu'il n'y a pas meilleure saison pour vivre à cet endroit quand on fait le commerce des mollusques et des crustacés. Les gros arrivages de mai sont écoulés, le vent est frais. Les profits sont considérables. La bière est bonne. Bien installé sur la véranda, il n'y a plus qu'à attendre l'été.
Merci, Paul-Serge Forest, de nous avoir lu le début de votre premier roman, intitulé « Tout est Ori », lauréat du prix Robert Clich en 2021 au Québec, mais aussi prix d'excellence des écrivains francophones d'Amérique, et qui, après sa publication canadienne, paraît également en France, aux éditions des Équateurs. Un extrait qui nous a fait entendre votre langue, votre écriture, qui sont extrêmement singulières, audacieuses, voire insolites, et qui nous plongent, on l'a entendu dans cet extrait, dans le milieu des fruits de mer à Baie-Trinité sur la côte nord du Québec, avec les aventures hautes en couleur d'une famille, la famille Lelarge, qui gère une usine de mollusques et crustacés, famille bousculée par l'arrivée d'un mystérieux Japonais, et le tout sur fond d'enquête sanitaire avec une intoxication alimentaire générale. C'est une fiction difficile à résumer, tant les personnages, les situations, les sensations sont multiples, complexes, énigmatiques, à l'image du titre dont on reparlera tout à l'heure. Et donc le plus simple, me semble-t-il, est de vous demander quel était votre projet avec ce roman tentaculaire, sachant que c'est votre première publication et qu'en plus d'écrire, vous êtes d'abord médecin à Montréal. Quelle était donc l'envie à l'origine de ce livre?
J'aime bien que vous disiez tentaculaire pour décrire un roman qui parle des créatures de la mer. L'adjectif est fort bon. Le projet était double. La question que je me posais, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en littérature au 21e siècle que le cinéma ou que les jeux vidéo ne pourraient pas nous montrer? Alors, j'ai décidé de jouer avec le sens de la vision, avec l'invention qui est l'ori du titre, à laquelle nous reviendrons probablement. Mais je voulais jouer avec le sens de la vision, puis faire voir par la littérature des choses que nos yeux pourraient pas voir, mais que notre cerveau et notre conscience, par le sens de la vue, peut voir. Ça a été la première idée. La deuxième idée, bien, c'était de trouver un décor. Puis le décor le plus naturel pour moi, bien, c'est le décor de ma région natale, la Côte-Nord. Je suis né à Baie-Comeau, une ville de 25 000 habitants à peu près. Mais il y a tout près un petit village qui s'appelle Baie-Trinité, village de peut-être 300 habitants. Quand on y passait, ma mère me pointait une usine de fruits de mer qu'il y a là-bas. Et elle me disait, dans cette usine-là, on prépare des coquillages, des crustacés pour l'exportation, surtout l'exportation au Japon, mais bien souvent des coquillages que nous, ici, on ne mange pas. Alors, je sais pas, c'est comme rester un grand mystère dans mon enfance, tout ça. Puis, quand je cherchais un décor ou mettre en scène la première idée, plus visuelle, je disais, mais ça serait bien que ça arrive sur la Côte-Nord, peut-être dans l'industrie du fruit de mer. Puis, ben, tout était trouvé. Après, j'ai pu l'écrire.
Et effectivement, dans le cadre du développement de l'usine, les héritiers Lelarge développe un partenariat avec une grande société au Japon. Et quelques temps plus tard, il voit surgir donc un Japonais, Mori Ishikawa, dont le comportement est très étrange, énigmatique. Et je me demandais, Paul-Serge Forest, si c'était aussi la question de l'autre, de l'étrangeté, de l'altérité culturelle que vous vouliez injecter dans ce roman. Ce que vous permet en effet l'arrivée de ce personnage qui chamboule le quotidien des uns et des autres.
Tout à fait. Il y a beaucoup de différences de classe sociale dans le livre. Il y a aussi beaucoup de différences tout court, ce rapport à l'autre-là. En littérature québécoise, il y a un classique qui s'appelle « Le survenant » de Germaine Guèvremont, un livre qui a été écrit dans les années 40, qui est encore lu dans les cégeps, à l'université aussi, dans plusieurs écoles secondaires. C'est l'histoire d'une famille d'agriculteurs, puis tout à coup, il y a un personnage qui arrive, un peu venu de nulle part, qui s'appelle Le Survenant. Alors, Mori Ishikawa, le personnage qui arrive à Baie-Trinité, c'est un peu la même forme. J'ai un peu repris cette forme-là de ce classique de la littérature québécoise. Puis, évidemment, ça met en scène le rapport à l'autre avec un A majuscule, les différences culturelles qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut projeter aussi de peur, tout ce qu'on peut projeter de nous sur l'étranger aussi. Donc, c'est un thème, je crois, assez actuel.
Et dans cette famille, une jeune fille, Laurie, qui d'ailleurs a eu un jour une forte allergie aux crevettes et qui depuis est privée de cette nourriture. Et cette adolescente, elle est très sensible au charme de ce Maury. Et pendant que les adultes se débattent dans le quotidien, elle, elle lit. Et elle lit à la chaîne.
Oui.
John Grisham, John Irving, Michel Houellebecq, Proust, Kundera, Duras, Paul Auster... Et une allusion à Miron, Gaston Miron,
oui.
Évidemment, le poète et éditeur québécois. Est-ce que ce sont des auteurs que vous aimez, sans doute Paul-Serge Forest, mais est-ce que ce sont également des indices pour éclairer notre lecture?
C'est les deux. C'est mon programme de lecture d'adolescence à moi. C'est tous les livres que j'ai lus pendant mon adolescence. Avec ce cheminement-là, les romans un peu plus populaires avec Grisham, puis l'interface entre le roman populaire et le roman plus littéraire avec John Irving, Le Monde selon Garp, ça a été un grand moment de révélation de toutes les potentialités de la littérature pour moi.
D'où un ours aussi qui surgit dans votre roman.
D'où l'ours, tout à fait. Vous avez bien vu.
Puis, et Marguerite Duras avec l'amant, j'imagine?
Marguerite Duras avec l'amant qui est à cause de l'attirance d'une assez jeune adolescente avec un étranger asiatique un peu plus vieux. Donc, ça reprenait la forme. Un peu comme si Laurie lisait sa propre histoire en même temps que sa propre histoire se créait autour d'elle alors qu'elle est un personnage littéraire.
Donc, vous êtes nourrie de littérature européenne, américaine, internationale?
Et québécoise.
Et donc, dans ce ballet romanesque qui brasse autant les questions sociales, en effet, que familiales, économiques, avec cette incursion dans le fantastique dont nous allons parler dans un instant, il y a aussi beaucoup de sensations. Le goût, les odeurs, le toucher avec les caresses, les fluides et beaucoup de scènes sexuelles que vous écrivez avec une grande liberté. Et une récurrence, par exemple, du mot « sperme »,
oui.
Qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec l'un des ressorts du roman. Mais néanmoins, pourquoi Paul-Serge Forest déferlement? Est-ce que c'est de la provocation ou c'est parce que c'est la nature humaine?
J'ai vraiment pas voulu que ce soit de la provocation. Faut dire que je suis médecin, un médecin généraliste. Tous les jours, les gens viennent me voir et me racontent des choses au sujet de leur corps et parfois même de leur fluide corporel qu'ils disent pas nécessairement à tout le monde. Alors, j'ai décidé d'écrire beaucoup le corps. Puis, il y a le sperme qui est un tabou, qui est pas tant que ça mis en scène c'est pas mis en scène de façon pornographique du tout dans le livre, je crois, mais il y a un pouvoir d'évocation. Le sperme, c'est la fertilité aussi, c'est pas nécessairement obscène. Puis, des fois, ce que je dis, en cinéma, si on voit un film et tout à coup, il y a du sperme, on se demande, est-ce que c'est du vrai? Mais dans un livre, évidemment, c'est toujours du vrai. C'est toujours du vrai, dans le sens qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut. Puis après ça, le sperme, en l'occurrence de Mori Ishikawa, ce personnage-là, n'est pas vraiment du sperme ordinaire non plus. Ça permet de déborder un peu du cadre d'un roman où les choses seraient telles qu'elles paraissent. Et il n'est pas tel qu'il paraît.
Donc maintenant, après avoir planté le décor avec vous, Paul-Serge Forest, évoqué les grandes lignes, il faut donc en arriver au titre. Tout est Ori, O-R-I.
Oui.
Sachant que Ori, si j'ai bien compris, mais vous allez me détromper, est un mot japonais et qui, entre autres définitions, pourrait justement définir une couleur inconnue ou en tout cas que la vision humaine ne perçoit pas ou n'a jamais vu. Est-ce que c'est ça?
C'est un mot japonais qui a quatre sens. Le sens de pli, le sens de sédiment, le sens de cage ou de cellule comme une cellule de prison et le sens d'opportunité, de chance comme voici ta chance. C'est les quatre sens que j'ai pu trouver au mot ori en japonais, pli comme dans origami d'ailleurs.
Puis, donc vous parlez japonais, juste petite parenthèse.
Je ne parle pas japonais, mais j'ai fait quand même.
Vous avez fait vos devoirs?
J'ai fait mes devoirs. je crois avoir fait mes devoirs. C'est sûr que des lecteurs qui parleraient japonais verraient probablement que j'y connais rien, mais c'est ça la littérature aussi. Hein. Donc c'est ça, ce mot qui a quatre sens va devenir le nom de l'invention de Mori Ishikawa, ce mystérieux ingénieur japonais qui arrive tout à coup à Baie-Trinité. Et cette invention, vous l'avez dit, bien, c'est une nouvelle couleur, mais ce n'est pas une couleur existante. C'est une couleur complètement inventée. Puis d'ailleurs, avec mon éditrice québécoise, on a vraiment bien tâché de ne pas suggérer quoi que ce soit pour que ça reste toujours mystérieux. Si je vous dis à vous, ben voici une nouvelle couleur, vous avez lu le livre, je suis sûr que vous vous êtes imaginé quelque chose, probablement pas la même chose que moi, probablement pas la même chose que mes deux éditrices et maintenant que les quelques milliers de lectrices et lecteurs. C'est précisément ça le jeu. C'est de faire voir par la conscience, à la vision humaine, quelque chose que nos sens pourraient pas voir, nos yeux physiologiquement peuvent pas voir des couleurs qui existent pas. Faudrait altérer complètement les neurones qui guident notre sens de la vision. Puis de voir plus loin que la nature encore, avec les yeux de l'esprit, c'est ça qui m'intéressait à la base. Les premières idées que j'ai eues pour écrire ce livre-là tournaient autour de ça.
Et de fait, qu'est-ce qu'il faut entendre par « tout est ori » ?
Tout est ori. C'est que cette invention-là, au fur et à mesure du livre, puis je ne vendrai pas la mèche en dévoilant exactement
surtout
comment,
va
en venir à gagner beaucoup de territoire sur la nature, sur les événements du livre. Et on le sent bien, ça commence comme un roman plutôt réaliste, je crois, et plus ça va, plus ça chavire, plus ça devient étrange, plus ça devient insolite. Il y a même un personnage d'inspecteur qui aime toutes les choses scandinaves qu'on pourrait peut-être associer à certaines figures de détectives scandinaves qu'on connaît de d'autres romans. Mais tout d'un coup, tout ça va chavirer. Puis tout est ori, effectivement, tout va gagner cette couleur-là va gagner le monde. Mais d'un autre côté, c'est un peu un désordre. Il va y avoir une étrangeté qui tranquillement va s'insinuer partout et tout envahir. C'est un peu ça que je crois que ça veut dire. Puis le titre, comme dans plusieurs romans, prend probablement son sens un coup qu'on a lu le livre aussi.
Vous écrivez « Les choses qui n'existent pas n'ont pas de nom ». Et moi, je me disais, mais est-ce que pour autant, toutes les choses qui n'ont pas de nom peuvent exister ? Dans le sens où, me semble-t-il, il y a des langues où il y a une multitude de choses nommées par les unes, mais qui n'ont pas leur équivalent dans les autres.
Tout à fait.
Et pour rester sur cette question purement linguistique, je me disais qu'il y avait certainement plein de mots dans le français québécois qui n'ont pas leur équivalent dans le français de France.
Oui.
Par exemple, vous avez une idée?
Mon préféré, c'est le verbe « pogner ».
Pogner.
Pogner. C'est comme,
serrer la main?
C'est comme « poigner », mais sans le « i », « pogner ». Ça peut vouloir dire absolument tout en français québécois. En fait, ce que j'aime de ce mot-là, qui est probablement mon préféré de la langue française, mais on s'entend, c'est la langue française québécoise, c'est son incroyable polysémie. Par exemple, si on a la COVID, bien, on pogne la COVID. On peut pogner quelque chose sur une plage, ça veut dire le poignet, le prendre dans le poing. Quelqu'un qui pogne auprès des autres, c'est quelqu'un qui a du charme, puis qui rencontre facilement des personnes. Il y a au moins, je pourrais en dire 40. C'est un mot d'une incroyable polysémie. J'en ai mis beaucoup dans l'édition québécoise de Tout est ori. On en a mis un petit peu moins. On m'a modéré pour l'édition française.
Vous voulez dire qu'il y a eu un travail presque de réécriture ou de réédition entre la version québécoise et la version française?
Un tout petit travail de réédition pour que les choses soient intelligibles, parce que je pense que dans Tout est ori, j'aime écrire en québécois. Puis il y a un travail probablement un peu de défense et illustration de la langue québécoise. Puis, pour l'édition française, il ne fallait pas que ça vienne à complètement tuer le sens. Puis, je l'ai vraiment écrit pour un lectorat québécois à la base. Donc, on a fait quelques petits ajustements. Mais n'ayez crainte, le verbe « pogner » s'y trouve quand même plusieurs fois.
Alors moi, j'ai buté sur un mot que je n'ai jamais réussi à identifier À quoi ça correspondait?
Allez-y.
C'est le mot bobette. Qu'est-ce que c'est des bobettes?
Des bobettes, c'est des petites culottes.
Ah, c'est ça. Parce que comme c'était au pluriel, ça me...
Il est toujours au pluriel. C'est un pluriel singulier.
D'accord. Bon, ben voilà, au moins j'ai ma réponse. Alors, c'est très intéressant tout ce que vous dites, évidemment, sur la question de la langue. Et par exemple, se tient actuellement dans le monde entier la semaine de la langue française. Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur ou vous, comme vous dites, vous avez plutôt envie de défendre et illustrer la langue québécoise?
Ah, mais comme Miron le disait dans L'homme rapaillé, le québécois, c'est du français. Hein?
Bien sûr.
C'est un peu comme le portugais du Brésil et le portugais du Portugal. On voit ça dans toutes ces langues-là qui ont traversé l'Atlantique. Le québécois, c'est du français, ça fait aucun doute. Puis quand on défend la langue française, quand on défend la langue québécoise, on défend la même langue. On défend le français en Amérique du Nord. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'espère qu'il y a peut-être quoi, 6, 7, 8 millions de francophones en Amérique du Nord versus 350 millions d'anglophones. J'espère qu'il va pouvoir continuer à y avoir longtemps du français qui est parlé en Amérique du Nord.
Vous n'êtes pas alarmiste, comme certains?
Non, moi, je ne suis pas alarmiste. Moi, je suis très confiant au sujet du français au Québec. Puis ce qui compte pour moi, c'est que le français au Québec puisse être inclusif. Que ça ne devienne pas un entre-nous, entre Québécois, Blancs, qui ont leur famille historiquement au Québec, mais que le français en Amérique du Nord puisse être un véritable véhicule d'inclusion.
Alors, on n'a pas pu tout dire, Paul Serge Forest, de ce roman qui est volumineux, qui fait plus de 445 pages, et qui est très riche en sensations, en références, en propositions. Vraiment un roman éminemment complet et immersif. Et d'ailleurs, je me demandais, quand on est médecin comme vous, généraliste, et Dieu sait que vous avez eu un peu de travail là, ces derniers temps avec la pandémie, comment est-ce que vous réussissez à concilier l'écriture et le soin des patients?
J'ai eu énormément de travail pendant la pandémie. En fait, mon livre a été publié par le concours Robert Clich, qui est un concours de manuscrits. On envoie les manuscrits qui sont évalués anonymement par le jury. Puis, quand j'ai appris... Je travaillais dans un hôtel de Montréal où on devait héberger des personnes âgées atteintes de la COVID parce que les ressources dans lesquelles ils vivaient ne suffisaient plus. Et c'était un climat extrêmement étrange et tout est un peu arrivé en même temps. Après ça, j'ai eu la chance d'écrire « Tout est théorie » avant la naissance de mes deux enfants, alors que j'étais médecin, mais pas encore père.
Oui, parce que maintenant, ça va être un peu plus compliqué.
Maintenant, c'est...
C'est une question de rythme.
Il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps. Puis je pense que de plus en plus, je réussis à trouver le temps, mais ça prend énormément de discipline. Disons, je ne peux pas attendre l'inspiration pour écrire.
En plus, ce sont deux métiers qui sont très demandeurs de temps, justement.
Oui, mais... sont tellement conciliables d'un autre côté. Mon travail de médecin, c'est d'accueillir tout le temps des gens qui doivent partager leur histoire. Puis en posant des questions, un peu comme vous faites maintenant, les inviter, les inciter, les aider à raconter leur histoire. Quand j'arrive avec mes personnages littéraires, je les ressens comme presque comme des vraies personnes avec qui je me sens être. J'arrive à les aider à raconter leur histoire aussi.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre premier roman, Tout est Ori, qui paraît aux éditions Les Équateurs en France, Paul Serge Forest, et d'être passé au micro de RFI.
Merci, un grand plaisir.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.